Bonjour à tous, bienvenue pour notre émission du mois de février. Aujourd'hui, et si on en parlait ? Au sommaire, dans Nature féminine, nous parlerons de la beauté des seins. Dans la chronique Bonjour les chauds doudous, Jaya nous parlera du stress à l'école. Le portrait de femme de ce mois-ci, Yaël Catrinet, poétesse et magicienne de la Terre. La chronique Graines de vie parlera de l'allaitement. Enfin, Corinne, dans sa chronique Bien-être et fourchette, nous parlera du lactose. Nature féminine, la beauté des seins. Nous allons entamer un dossier thématique dont nous parlerons sur plusieurs émissions. Il en sera de même pour le lactose et pour le stress à l'école. Alors les seins, parlons-en. C'est une partie intime de notre corps et pourtant c'est la plus exposée aux yeux des autres. C'est également la partie du corps de la femme qui connaît sans doute le plus de fonctions. Le sein est en effet l'emblème même de la féminité. Le sein est objet de désir et suscite le plaisir. Le sein est aussi symbole d'abondance, de fertilité, et pour cause, le sein est nourricier. Mais comment se comporte-t-on face à eux ? Pas toujours bien. Trop peu de femmes prennent assez soin de leur poitrine. À tort d'ailleurs, car les seins requièrent un besoin d'attention et un traitement particulier. Ils sont essentiels à notre santé et à notre développement. Plusieurs choses à savoir sur les seins. D'après l'article Viva la Bobise, 7 choses à savoir traduit par Ishara Labiris. Tout d'abord, nos seins sont beaux. En effet, il n'y a pas de taille ni de forme idéale. Qu'ils soient petits, qu'ils soient plus opulents, qu'ils soient en forme de poire ou qu'ils soient ronds, tous les seins sont beaux. Nos seins ont besoin également d'être massés. Deuxième chose. En effet, la poitrine ne contient pas de tissu musculaire. Elle est essentiellement composée de graisse, de nerfs, de glandes, de conduits lactifères. Il faut donc masser la poitrine afin de favoriser la circulation. Troisième chose, nos seins n'ont pas besoin d'être emprisonnés. Et oui, le port du soutien-gorge n'est pas forcément une bonne chose pour la poitrine. On a tendance à penser que lorsqu'on met un soutien-gorge, notamment avec une armature en ferraille, avec une armature donc solide qui maintient fermement la poitrine, on pense bien faire. Et à tort, parce qu'en fait, ça esquinte la poitrine plus qu'autre chose. En effet, tout d'abord, le métal contenu dans l'armature bloque l'énergie circulant dans la poitrine, mais aussi, tout simplement, l'armature empêche le liquide, le fluide lymphatique de circuler dans le sein, dans les seins, dans les aisselles et dans les épaules. Conséquence, il y a accumulation des toxines. Donc, tout simplement, ne pas porter de soutien-gorge, même faire du sport, courir, de la gym sans soutien-gorge, avec la poitrine libre qui bouge, qui va et qui vient, ça permet la circulation du fluide lymphatique et donc l'élimination des toxines dans la poitrine. C'est aussi, d'une certaine façon, un moyen de prévenir, du coup, des maladies, des engorgements mammaires ou d'autres ganglions qui pourraient se former. Quatrième chose, nos seins sont désir et plaisir. En effet, les seins sont une zone érogène qui provoque du plaisir lorsqu'ils sont caressés, lorsqu'il y a ébat sexuel. Donc, encore une raison de plus d'en prendre soin et de bien les traiter. Nos seins sont protecteurs et nourriciers. Et oui, les seins, la poitrine de la femme, est le premier élément de protection pour un enfant. Alors pourquoi protection? Tout simplement parce qu'ils diffusent de la chaleur. Les seins sont chauds, c'est un peu une bouillotte. Et quand le nourrisson vient au monde, le réflexe est de le poser sur la poitrine parce que tout simplement, une chaleur diffuse va envelopper le bébé, va permettre un échange avec son enfant. Et donc, il y a vraiment une dimension de protection, une dimension de chaleur, une dimension de bien-être et tout un échange qui passe par la poitrine. Nos seins sont intelligents, donc il faut pas hésiter mettre son bébé, à le coller contre soi, aussi bien à la naissance que même après, plus petit, et encore après pour de gros câlins lorsque les enfants sont plus grands. Ils sont nourriciers, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de choses plus naturelles au monde et de plus sains ni de meilleur pour l'alimentation d'un enfant, d'un nourrisson, d'un bébé que la poitrine et le lait maternel. Tous les fabricants de lait pourront vous dire qu'ils reproduisent le lait maternel. On vous vend du rêve parce que ce n'est pas possible. La composition est unique et aucun lait artificiel ne peut reproduire ce lait maternel. Donc une raison de plus pour en prendre soin. Sixième chose, nos seins sont des centres énergétiques. En effet, les seins dans la médecine traditionnelle chinoise contiennent 6 méridiens qui passent dans la région donc de la poitrine, dont 3 d'entre eux, celui du rein, celui du foie et celui de l'estomac. Donc vous vous en doutez, si nous avons 6 méridiens qui passent dans notre poitrine, reliés donc les méridiens à ces organes, il est encore plus important d'en prendre soin afin de prévenir d'éventuelles maladies et de pouvoir assurer à notre corps une santé globale et optimale en prenant soin de notre poitrine. Enfin, 7e et dernière chose, les seins et l'atout par excellence de la féminité. En effet, le propre de la femme est d'avoir une poitrine et surtout c'est l'attribut de sa féminité qui se voit. On est femme avant tout, on le voit parce que effectivement une femme a de la poitrine. Donc c'est joli, c'est féminin, il faut en prendre soin. Alors n'hésitez pas à vous procurer massage, à vous procurer soin et à aimer tout simplement votre poitrine parce qu'ils sont beaux et formidables. Tout de suite, notre chronique « Bonjour les chauds doudous » animée par Jeya. Bonjour Jeya.
Bonjour Mélanie, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous et toutes les auditeurs. Je voulais vous parler, ça va être un gros dossier, donc on va en parler sur plusieurs semaines, du stress à l'école, parce que c'est un peu un sujet tabou, un sujet qu'on aborde difficilement quand on est parent, qu'on n'aime pas trop aborder quand on est professionnel aussi, parce que c'est pas le plus facile à aborder, à résoudre. Et en fait, quelles que soient les étapes de la scolarité de votre enfant, l'école peut être un véritable facteur de stress pour lui. J'en ai fait les frais en tant que maman avec mes enfants et j'en ai fait les frais en tant que CPE puisque j'ai accueilli beaucoup d'élèves qui, hélas, venaient me voir complètement désœuvrés parce que ça faisait des années qu'ils étaient mal avec l'école. Parfois même, j'en accueillais en sixième qui, depuis la maternelle, étaient mal à l'école.
Ah oui, parce que...
Hélas, parce qu'on ne sait pas toujours, nous, en tant que parents, il y a beaucoup de choses qui se jouent, en fait, sur le stress à l'école.
Effectivement.
Déjà, j'imagine même notre rapport à l'école en tant que parents, comment on vit ça.
Et on rencontre très souvent même des fois dès la maternelle des problèmes de stress. Enfin, moi, pour l'avoir vécu également avec ma petite fille, la maternelle peut déjà être source de stress pour les enfants.
Exactement. Donc, ce qui est important, le plus important, c'est évidemment déjà de le repérer, le stress chez l'enfant, parce que en fait, il peut être lié à la vie de la classe, à un incident dans la cour, ça peut être lié au travail, à la charge de travail qu'il a l'impression qu'on lui met sur les épaules dès la maternelle,
Oui, tout à fait.
à sa relation aux autres, soit avec un enseignant, soit avec un agent, un personnel, soit avec des camarades. Et donc, c'est comment la première question qu'on doit se poser, c'est comment le repérer? Alors, même si chaque enfant est différent, il va le manifester différemment, évidemment. En tout cas, il y a quelques éléments clés qui sont l'absence d'appétit, ou vous le récupérez, il est un peu tristoun, ou alors il ne veut pas du tout vous parler, il a du mal à dormir la nuit, ou alors il a du mal à s'endormir. Ça peut même aller plus loin, puisque moi j'ai un fils qui somatisait beaucoup, et ça peut être avoir envie de vomir, avoir des maux de ventre extrêmes,
Les
et
maux
on a
de
beau voir
ventre.
tous les spécialistes, voilà.
Tout à
Et on a
fait.
beau voir tous les spécialistes de la
Oui.
Terre, rien n'y fait quand finalement on s'aperçoit que les enfants vont très bien le week-end et puis que finalement le dimanche soir, l'angoisse du dimanche soir peut être là. Et moi j'avais repéré ça avec mon fils, en fait, il allait très bien quand il n'y avait pas école. Heureusement, je l'ai repéré très vite. Et puis moi-même, je faisais une formation pour être dans l'éducation nationale, donc j'ai toujours été en vigilance sur le stress à l'école. Et donc, c'est comment repérer les signes qui manifestent ce stress chez votre enfant. Alors, ça peut être à la rigueur, j'allais pas banaliser, mais presque banal de vous dire votre enfant va avoir là, mon fils de troisième vient passer le brevet blanc, c'est un enfant plutôt zen. Et là, je l'ai vu dans un stress incroyable. En effet, c'est comment l'accompagner au mieux, dans la confiance, en lui disant que de toute façon, il va donner le meilleur de lui-même, l'accompagner aussi peut-être comment travailler s'il est mal organisé, selon son niveau scolaire, évidemment, et selon la classe où il est. Mais très vite, en effet, dès la maternelle, on s'aperçoit que les enfants sont déjà évalués. Et
Oui.
l'évaluation en tant que telle, je ne vais pas la remettre en cause ici, puisqu'elle existe, et même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont parfois on évalue, l'évaluation en tant que telle est un énorme facteur de stress. Parce qu'on se dit, dès la maternelle, nous sommes évalués.
C'est ça.
Alors évidemment, ça ne met pas dans des conditions optimales pour se sentir à l'aise à l'école.
Ça met une pression même, je dirais, incroyable, parce que les enfants se disent, il faut que, je dois y arriver, il faut, voilà, ils ont l'impression d'être en compétition en plus avec les autres, et même parfois en compétition avec eux-mêmes, parce que s'il y a des choses sur lesquelles ils n'arrivent pas ou pas à un rythme comme on leur demande, c'est, voilà, source de découragement, de stress, d'angoisse.
Tout à fait, exactement. Moi, j'ai testé deux écoles. Enfin, j'étais plutôt pour les écoles freinées et les écoles dites alternatives, méthode Montessori, qui se sont inspirées aussi des travaux de Piaget, où on part du rythme de l'enfant et non pas du rythme que la structure
C'est ça.
impose. Et j'ai pu voir la différence parce que moi, j'ai eu un fils qui savait lire à 5 ans, arrivé au CP. En octobre, il savait lire. Et quand il a changé d'école en janvier, ce qui ne fut pas une très bonne idée, mais c'était comme ça matériellement, on ne pouvait pas faire autrement. Son institutrice, qui était un peu plus en retard, on va dire, enfin, elle se croyait en retard par rapport du coup à l'autre collègue qui avait réussi à faire lire quelques enfants en octobre-décembre, l'a pris un peu en grippe en disant « c'est pas possible, tu mens ». Voilà, premier jour, quand il a dit ben, « moi je sais lire », elle a dit « c'est pas possible, tu mens ». Donc ça commençait assez mal.
Ça partait mal, oui.
J'en souris maintenant, mais sur le moment, on a beaucoup souffert dans notre famille par rapport à cet enfant qui était en souffrance, oui. Et mon second fils, 10 ans plus tard, avec la maturité, je me suis plutôt respectée dans mes choix scolaires. Et là, qui a fait une école dite freinée, avec la méthode freinée, il a appris de la même façon, sauf que c'était pas à partir d'un manuel. Il créait des histoires
Oui.
et les enfants votaient pour une histoire, ils se la racontaient, ils apprenaient la syntaxe, la grammaire, l'orthographe à partir de ces histoires. Donc vous imaginez la différence. Déjà, évidemment, là on va faire appel à la créativité, on va pas faire appel à une sanction négative en disant là à ce moment de l'année tu ne sais pas lire. Au contraire, ce qui était positif pour eux, c'est que la note, elle était positive puisqu'elle se matérialisait par le fait que quand un enfant savait lire en CP, il pouvait aller à la bibliothèque chercher un livre et le lire aux enfants de maternelle. Vous imaginez la
Tout à fait.
gratification pour ces enfants?
Voilà. Cette notion de valorisation, en fait, hein, de l'enfant et puis d'autonomie. Donc ça, c'est très important.
Exactement. Et donc, nous, en tant que parents, notre rôle, c'est de le valoriser. Alors, bien sûr, inconsciemment, il se joue des choses. On dit, je ne veux pas lui mettre la pression. Mais quel a été notre rapport à l'école, nous, déjà? Je crois que c'est la première question à se poser. Pas à se poser devant son enfant, parce que ça pourrait l'angoisser un peu plus. Mais nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, on peut peut-être se poser la question. Et toi, comment tu étais à l'école, mon amour, autrefois? Comment tu l'as vécu, ta scolarité? Parce que ce n'est pas des choses qu'on aborde dans notre couple. Et ça, le fait de mettre les choses à plat, c'est comment, après moi, je vais vivre l'école de mon enfant, la scolarisation de mon enfant. Parce que je vois des parents qui, dès l'entrée en maternelle de leur enfant, est en stress si l'enfant a eu un rond rouge plutôt qu'un rond vert. Parce que le rond rouge, c'est que ça n'est pas acquis, ce qui a été vu dans ses savoirs. Et c'est comment ça nous renvoie en tant que parents la déception « Oh mince, mon enfant n'est pas un enfant idéal comme je l'aurais imaginé ». Donc voilà comment nous aussi, inconsciemment, on peut générer du stress chez nos enfants en leur mettant la pression, en leur demandant d'être le meilleur, en les mettant dans un esprit de compétition. Et c'est très insidieux parce que ça vient nous cueillir là où on s'en doute le moins parfois. Moi y compris, hein, je m'inclus bien sûr, malgré tout le travail de recherche.
Non, mais bien sûr.
Je ne suis pas une mère extraordinaire. Je l'ai cru à un moment, mais non, pas du tout. Je suis comme les autres, avec mes failles. Et c'est important, justement, de pouvoir dire aux enfants, bah, écoute, oui, il y a des moments où tu peux être plus fatiguée, donc moins concentrée, et avoir moins réussi. Et moi, par exemple, mon enfant, quand il revient et qu'il n'est pas content d'un devoir, et qu'il n'a pas la note qu'il aurait espérée, je dis, est-ce que tu as refait l'exercice avec ton professeur? Est-ce que tu as vu où est-ce que ça n'allait pas? Parce que du coup, là, on dépasse le stress de la note, qui devient une sanction, pour aller voir, pour aller chercher, ben voilà, ben peut-être en te l'expliquant autrement, tu comprendrais mieux.
Bien
Et
sûr.
Vous voyez bien, là, on dédramatise cette situation de note qui peut stresser. Donc là, voilà, je pense qu'on a un rôle en tant que parent. On ne va pas changer l'école, ça c'est certain. Par contre, c'est comment j'accueille le stress de mon enfant, comment j'accueille l'école dans ma vision de parent. Ça, c'est quelque chose d'essentiel.
Donc, première chose, essentielle, c'est vraiment de repérer les facteurs de stress. Et s'il y en a, donc, de repérer le stress à l'école chez nos enfants.
Exactement. Et alors là, j'ai parlé des notes, puisqu'on parlait de la structure éducation nationale, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle ici. Mais j'aimerais parler aussi tout simplement des relations. Alors, comme je disais, ce sera une longue série d'émissions parce qu'en 10 minutes, on ne peut pas traiter du sujet. Ce serait un peu frustrant. Mais l'idée, c'est aussi, peut-être il s'est passé quelque chose avec un camarade de classe. Peut-être on s'est moqué de lui et il n'a pas osé répondre de façon plutôt zen. Ou peut-être il se sent agressé par quelqu'un parce que dans la cour, il a l'impression d'être un peu isolé. Donc, c'est intéressant toujours aussi de voir comment se passe l'école. La première question qu'on peut poser, c'est « As-tu passé une bonne journée ?»
Une bonne journée.
Comment ça s'est passé ta journée ? Ça, c'est un rituel qu'on peut instaurer avec nos enfants. Ça prend 2 secondes 30, parce que souvent, on dit « Ah oui, mais j'ai pas le temps. » Juste prendre le temps de dire à son enfant « Voilà, est-ce que tu as passé une bonne journée aujourd'hui ? Comment s'est passée ta journée ?» Et puis, peut-être par commencer « Qu'est-ce que tu as mangé ce midi s'il déjeune à la cantine ?» Comme ça ne l'engage pas trop au niveau de l'école. Parce que c'est un temps off, on va dire. Et puis, venir sur le temps scolaire ensuite. Nous, on a fait ce rituel-là avec les internes quand j'étais responsable d'internat. Il y avait un goûter. Et le goûter, c'était un temps précieux où on racontait notre journée comme un couple qui se raconterait sa journée au travail quand il rentre le soir et qu'il dîne ensemble. Et là, c'est comment s'est passée ta journée? Et peut-être vous allez sentir des choses. Et peut-être que s'il n'a pas eu le temps de vous dire ou s'il n'a pas envie de parler, là, il va y avoir des signes indicateurs peut-être, sans chercher nécessairement la difficulté. Mais peut-être que si vous sentez qu'il est différent dans ce témoignage ou qu'il vous parle de quelqu'un, aujourd'hui, un tel, il m'a insulté. Et puis, si vous entendez que le lendemain, il redit le même prénom, là, il faut commencer à être vigilant parce qu'il ne faut pas banaliser, parce que ça peut se dégrader très vite.
Bien sûr, d'où l'importance, encore une fois, d'instaurer le dialogue et de prendre le temps d'écouter et de parler avec ses enfants.
Exactement. Dialoguer, c'est l'essentiel. Donc, on va rester là pour aujourd'hui, pour le temps qui nous est imparti. En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est en effet déjà soi. Moi, je vous inviterai à faire ce petit exercice, et déjà vous, en tant que couple, en tant que parent, ou vous-même famille monoparentale, dans un dialogue intérieur, vous dire, voilà, quel a été mon rapport à l'école et qu'est-ce que j'attends de mon enfant? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on attend tous quelque chose de notre enfant. Et notre enfant le sait très bien, très très bien. Donc, voilà, peut-être la première question à se poser, ce serait ça.
Un bon début.
Voilà, en grand début. Et puis, la proposition, ce serait, ben oui, comment j'accueille mon enfant le soir après l'école? Quel temps je lui donne? Alors, il n'a pas besoin d'être très long ce temps, parce que je sais bien que le rendez-vous de 5h à 19h, c'est quand même pas le plus zen pour les parents. Mais peut-être bah, au moment du coucher ou au moment du dîner, prendre un temps pour discuter avec votre enfant, et c'est un peu prendre la température de ce qui se passe à l'école, au collège ou au lycée d'ailleurs, hein, quel que soit le niveau scolaire de votre enfant. Voilà pour la prochaine fois votre petit cahier d'exercice.
Merci, Jaya.
Merci à toi, merci à vous tous, à très bientôt, au revoir.
À bientôt.
Come on!
notre portrait de femme de ce mois-ci, Yaël Catherine Ebock. Bonjour Yaël.
Bonjour Mélanie.
Alors Yaël, tu es une poétesse, magicienne de la terre et des femmes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ton histoire ?
Mon parcours, mon histoire. Je suis sortie très tôt en fait de l'école. Voilà, je suis rentrée dans la vie active et j'ai commencé à travailler. Je suis rentrée dans l'univers de la petite enfance. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des éducateurs, des animateurs, tout un mouvement qui était en train de créer les crèches parentales. Et ils m'ont invitée à passer, voilà, à faire une formation d'éducatrice. Donc j'ai repris des études et j'ai passé le diplôme pour devenir éducatrice des enfants. Donc pendant 10 années, j'ai travaillé dans l'univers de la petite enfance. Après, j'ai eu des enfants. Et à la naissance de mes enfants, voilà, j'ai arrêté de travailler dans le milieu de la petite enfance. Et j'ai voulu entreprendre des études de naturopathie. Parce que depuis que j'ai 15-16 ans, je m'intéresse au végétarisme, à l'alimentation, aux plantes. Donc j'ai entrepris des études. Et dans ces études, en fait, on parle de là où on va vivre, l'importance de la nature, de tout ça. Et donc j'ai déménagé de là où j'étais. Je suis venue habiter ici dans le sud de la France. Et puis j'ai eu une petite fille, ma troisième petite fille. Elle est en fait in utero. On a remarqué qu'elle avait une malformation cardiaque. Et du coup, ça m'a poussée à chercher comment l'accompagner. Et en cherchant comment l'accompagner, et après, une fois qu'elle est née, dans toute la suite qu'elle est à voir de sa maladie, j'ai découvert le portage, j'ai découvert plein d'informations sur une autre parentalité.
Et une fois on t'a perdu là.
Ouais, attends.
Ah bon?
Ouais, je sais pas ce que t'as fait, ça fait un bruit, puis on t'a perdu presque.
On a entendu un
bruit. Ah non, j'ai rien fait. Vous m'entendez toujours?
Là,
on t'entend un peu mieux.
Pardon, repars.
Tu te rappelles où tu étais?
Oui. Donc là, vous m'entendez?
Oui, là, c'est. Ouais, on t'entend bien.
Donc je disais, voilà, à la naissance de Lou, j'ai découvert tout ce qui était sur la parentalité bienveillante. Et puis là où j'habite, j'ai créé une association, j'ai commencé à organiser des rencontres, des ateliers sur le portage, sur la communication par enfant, sur l'allaitement, voilà.
Ça a été vraiment un déclic, hein, en fait, pour toi, l'arrivée de ta petite fille.
Alors oui, Lou, en fait, la dernière. En tout cas, ça m'a poussée, vous m'entendez ?
Oui.
Ça m'a poussée, en fait, en tout cas, voilà, à créer une association et à partager autour de la parentalité. Et pendant, 5-6 ans, j'ai organisé là où j'étais des rencontres, des ateliers. Et j'ai voulu aussi mélanger mes connaissances, en tout cas ce que j'avais appris en naturopathie, dans le domaine de la petite enfance, sur mon expérience de maman. Mais au fil du temps, mes enfants ont commencé à grandir. Et j'ai voulu en fait ouvrir un peu plus grand et je me questionnais sur l'univers du féminin. Et en premier lieu, l'idée m'est venue de proposer un week-end pour les femmes là où j'habite. Et donc j'ai créé un week-end et ça a bien fonctionné. Et en fait, au fil du temps, j'en ai créé chaque année depuis 5 ans. Et puis a germé une idée de faire des cercles des femmes, des rencontres. En fait, toute mon expérience est nourrie de rencontres et de partages, que ce soit autour de la parentalité ou autour des femmes, autour de toutes ces manifestations.
Donc tu t'es vraiment ouvert à cette dimension des femmes, en fait, au fil des années. Et tes rencontres ont nourri, j'ai envie de dire, cette envie d'aller toujours un peu plus loin dans le féminin et dans le partage de la féminité et l'accompagnement, du coup, des femmes.
Et puis aussi, parallèlement aussi à la naissance de Lou, en fait, j'ai suivi la formation de Doula. Je pense qu'il y a déjà 8 ans. Et voilà, ça a été aussi, je pense, un premier pied dans l'univers des femmes.
Tout à fait.
Mention de la rencontre, du partage, d'accompagner l'autre. Dans la formation de Doula de France, j'ai aussi rencontré Laetitia, qui est partie vivre au Mexique, apprendre auprès des sages-femmes traditionnelles. J'ai rencontré Muriel Bonnet-Delvarve. En fait, voilà, en l'espace de 8-10 ans, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens, aussi bien sur la parentalité, les femmes, l'alimentation vivante, la naturopathie. Et ça a grandi.
C'était une évidence, en fait, hein, tout simplement, pour toi.
Oui, je ne sais même pas si c'était une évidence, mais ça, je me suis laissée porter par tout ça. Comme je pense que j'ai une grande énergie de création, voilà, j'ai mis en œuvre.
Tu as mis en œuvre.
Et puis j'ai écrit en même temps, il y a voilà, 3 ans, un blog où, comme j'aime écrire, bah, j'ai écrit mes poèmes, j'ai mis tout mon univers et puis bah, le blog s'est mis à grandir. J'ai aussi voilà, proposé à des femmes d'écrire, on a créé un livre ensemble. Il y a pareil, 2-3 ans, bah, je me suis dit que j'allais organiser un salon et bah, j'ai organisé un salon à Nîmes et puis pareil, voilà. Ça pousse, ça germe, ça grandit, ça devient de plus en plus grand.
Et il y a plein de choses qui se passent, des jolies choses en plus. Alors voilà. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ta pratique. Quelle est ta pratique aujourd'hui ? Donc tu disais que voilà, tu accompagnais les femmes, que tu avais une association. Mmh. Donc tu as fait des études de naturopathie, de doula, tu as parlé de cercle de femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton accompagnement tous les jours justement envers ces femmes ou envers ces enfants ? Qu'est-ce que tu mets en place ? Qu'est-ce que tu proposes ? Quelle est ton activité aujourd'hui ?
Alors, je ne pourrais pas dire que mon activité a un nom précis et que j'ai un titre précis. Ce que, en fait, je propose, voilà, c'est de prendre un temps avec chaque personne qui va venir chez moi, de l'écouter, de discuter avec elle, voilà, autour d'une tisane. Parce que je pense que la parole est importante. Et puis, en fonction de son besoin, je vais utiliser soit mes ressources de naturopathie pour lui proposer, voilà, l'usage, l'utilisation de plantes ou une réflexion sur son alimentation. Et après, comme on va aussi discuter, il y a tout l'état aussi émotionnel.
Bien sûr.
Je vais après utiliser aussi toutes les ressources qu'il peut y avoir, fleurs de Bac, huile essentielle. Et comme je me sens aussi très proche et puis que j'ai l'impression voilà, d'avoir du magnétisme dans les mains ou une certaine sensibilité, après, bah, voilà, j'interviens plus avec... mes mains, des instruments de musique, des minéraux, voilà, je me laisse porter.
Tu te laisses porter.
Après, j'utilise plus voilà, la dimension d'un soin énergétique. Et je prends vraiment le temps pour chaque personne, facilement 1h30, 2 heures, pour accompagner la personne. Et puis après, même voilà, au fil du temps, de rester en contact, de l'accompagner. Ça, c'est un peu ce que j'ai découvert avec l'univers des doulas, c'est vraiment l'accompagnement.
Donc c'est vraiment ça, c'est de l'accompagnement et vraiment propre à chacun ou chacune. Et il n'y a pas de prestation où tu as un soin qui dure tant de temps, avec un protocole de soins. Ou voilà, c'est vraiment tu accompagnes la personne selon ses besoins et le temps qu'il faut tout simplement pour qu'elle se sente bien.
Oui, après il y a quand même la pratique d'un soin qui va être...
Tu as une trame.
Voilà, en fait, c'est un voyage, donc ça va être un accompagnement sur un voyage. Donc après, je vais utiliser les instruments de musique, après, je vais utiliser mon tambour, après, je vais utiliser tout ce qui vient à ce moment-là, en fait.
Super. Et alors, tu nous parlais tout à l'heure, donc effectivement, d'un livre que tu as écrit, d'un salon autour du féminin. Donc ça, j'aimerais qu'on en reparle un peu. Donc, je ne me trompe pas, le livre donc Terre de Femmes, qui est un collectif de femmes, donc avec des textes écrits par différentes femmes, qui a été publié à la fin, je crois, 2015, c'est ça ?
Ça a été publié en octobre 2014, je crois.
Pas 2015, oui, pardon. 2014, excuse-moi.
En octobre 2014.
Octobre 2014, tout à fait, pas 2015, autant pour moi.
Ça fait un an que c'est sorti, un peu plus.
Voilà, donc octobre 2014, donc ce livre « Terre de femmes ». Mais aujourd'hui, il y a eu quand même un long voyage aussi de fait pour ce collectif, puisqu'il est adapté au théâtre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors, en fait, un peu comme dans tous mes projets, à un moment donné, j'ai une idée, comme quand on écrit ou quand on peint. Voilà, j'ai une idée, je me suis un peu inspirée, et puis je pars sur l'idée de créer quelque chose. Et depuis quelques années aussi, voilà, je suis dans l'idée de mettre en place... le collectif et puis l'idée que c'est pas qu'une personne qui agisse, mais c'est vraiment une femme pour des femmes ensemble. Donc, il y a 2 ou 3 ans, je me suis dit, voilà, non, dans les livres, il y a souvent qu'une personne qui raconte, mais ça pourrait être intéressant qu'il y ait plusieurs personnes qui racontent leur expérience pour le proposer à une personne qui va le lire ou à d'autres personnes. Donc, j'ai écrit à toutes les femmes que je connaissais ou que je ne connaissais pas, voilà, de se joindre dans un collectif et que chacun puisse témoigner, raconter ce qu'elle avait envie de transmettre. Donc, chacun a écrit librement et c'est devenu un livre. Et puis, le livre a été sur différents salons et il y a une jeune comédienne qui a aimé le livre et qui m'a contactée pour en faire un spectacle. Elle a pris des passages de texte qui lui plaisaient. Elle a un ami qui est musicien et ensemble, eh ben, ils ont voilà, créé ce qu'ils appellent un texadique où elle va parler, lui, il va jouer. Mmh. Ça va être aussi comme un voyage. Et donc là, elle est partie sur différentes villes. Elle va venir vendredi chez moi, ici à Nîmes. Voilà. Mais après, elle va monter un peu plus haut chez une autre femme. Après, dimanche, elle va aller chez Marion qui a participé au livre sur Alès. Voilà, ça continue de tourner, en fait.
C'est voilà. Encore une petite graine semée qui parcourt son voyage et qui, voilà, qui passe, s'envole, pousse, grandit.
Voilà, en fait, c'est ça. Je me sens une semencière.
C'est ce que j'allais dire.
Je mets des graines dans la terre et après, ça pousse.
Une semencière de graines, une semencière d'étoiles. C'est un peu ça.
Ouais.
Et puis, alors, il y a eu ce premier livre.
Oui.
Donc, Terre de femmes. Et il y a eu également donc, la fin 2015, cette fois-ci.
Là où il y a un jeu qui est sorti. Alors, c'est pareil, hein, comme je disais, j'ai des idées comme ça. Et je me suis dit, voilà, j'avais aimé les dessins de Céline parce qu'elle m'avait fait des petites cartes. Et puis, j'ai dit à Céline, parce que je suis très matinale. Alors, le matin, j'ai une idée, j'ai envoyé un message et je lui ai dit, voilà, j'imagine un jeu. Est-ce que tu veux faire les dessins? Donc, elle m'a dit oui. Et c'est parti comme ça. Et après, on l'a proposé à une maison d'édition qui a dit oui.
Donc,
c'est exactement la même chose que pour le salon. C'est que j'ai dit à une amie, j'ai une idée, voilà, je vais faire un salon. Et ça part comme ça.
Une petite graine d'idée qui germe.
Oui. Quand j'écris, c'est à un moment donné, j'ai une idée d'inspiration. Et puis, je le mets en œuvre.
Et tu le mets en œuvre. Et donc, ce tarot, donc, quand même, qu'on cite son nom, donc, ce tarot Cœur de femme, mmh. Édité donc, par Souffle d'Or, mmh. Et qui est sorti donc.
Mais là, 2015.
2015, hein, c'est ça, tout à fait. Mmh. Et donc, les peintures, donc, les textes sont écrits par toi, Yaël, et les peintures, donc, par.
Par Céline Cailleux.
Céline Cailleux qui a fait donc de très belles peintures. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tarot, je les invite vraiment à le découvrir parce qu'il est vraiment magnifique. Tes textes donc sont très jolis. Toi, poétesse, tu as écrit pour chaque carte donc un poème, un texte. Et Céline a su mettre voilà illustrer magnifiquement du coup ses poèmes et ses inspirations. Donc, aux éditions Souffle d'Or, Cœur de femme.
Mmh.
Et puis, ben, pour terminer, j'aimerais que tu nous parles du salon, quand même, autour du féminin. Donc, la 3e édition, c'est ça, cette année à Nîmes.
Ça sera la 3e édition au mois de mars, le 19 et le 20 mars, donc à Nîmes. Plus exactement à la sortie de Nîmes vers Marguerite, au jardin intérieur. Et comme la première et deuxième année, il y a des exposants, des conférences, des ateliers. Sur 2 jours. Alors ça s'appelle Autour du féminin, c'est pas réservé que aux femmes, c'est ouvert à tous, toutes les personnes qui ont envie voilà, de se nourrir autour du féminin. Donc, c'est bien des intervenants masculins qui peuvent présenter une activité voilà, qui peut intéresser les hommes et les femmes avec une dimension matérielle peut-être un peu du féminin.
Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire pour venir à ce salon ?
C'est un salon, donc c'est pas un festival, donc les gens juste payent l'entrée et vont là où ils veulent. Après, il y a des horaires avec un programme, donc chaque heure, il y a un atelier et une conférence. Donc après, une fois que l'atelier ou la conférence a commencé, on peut pas s'insérer dedans. Il faut suivre les heures, mais il n'y a pas de préinscription. Beaucoup trop de choses à...
Trop d'organisation peut-être
après. D'organisation parce que il y a beaucoup de monde.
Bien sûr.
C'est impossible après.
C'est difficilement gérable après, quand il y a beaucoup de monde. Donc les entrées sont libres. Donc est-ce que tu peux nous donner le tarif de l'entrée?
Alors l'entrée, c'est 5 euros.
Pour la journée ou pour le week-end?
Pour la journée.
Pour la journée.
Pour le week-end, c'est 7 euros.
D'accord, donc 5 euros la journée, 7 euros le week-end. Peut-être...
Il y a une page Facebook sur le salon, et puis après sur mon blog Le Chant des Arbres, il y a une page aussi avec tout le programme.
C'est ce que j'allais te demander. Donc, le programme du salon est disponible donc, soit sur ta page Facebook.
Enfin, c'est pas ta page. Pour le salon.
Voilà, donc la page s'appelle Autour du féminin, c'est ça?
Oui.
Donc, ça, c'est la page réservée donc, au salon de Nîmes, ou oui. Alors sur ton blog Le Chant des Arbres.
Il y a une page pour le salon.
Très bien. Et tu peux nous redonner peut-être ton adresse de ton blog?
Alors, c'est Le Chant des Arbres sur Overblog.
D'accord. Le Chant des Arbres, Overblog. Et donc, on trouve toutes les informations concernant le salon, mais aussi tout ce que tu fais.
Il y aura d'autres rendez-vous, en fait, après aussi, sur les femmes, sur l'année. Là, je prépare, un pèlerinage à la Sainte-Baume avec les femmes. Au mois d'octobre, je reloue le même gîte, comme je disais au début, ça s'appelle le Féminin en Liberté.
Oui.
Voilà.
Ce week-end.
Là, je prépare aussi sur une rencontre autour de ce que j'appellerais peut-être la naissance sacrée, mais une rencontre partage pour parler de l'avenue d'un enfant, de qu'est-ce que c'est être parent, avec une dimension un peu bienveillante.
Donc il y a encore plein de choses à venir,
de
dates.
Plein de projets. Oui.
Plein de projets. Donc effectivement, c'est bien pour ceux qui sont intéressés d'aller voir sur ton blog parce qu'ils pourront avoir toutes les infos, toutes les dates. Mmh. Ils pourront lire aussi tes textes. Et puis, j'aimerais quand même qu'on en parle parce que tu devrais venir nous voir normalement dans le Tarn-et-Garonne à Parisot au mois de juin.
Oui, c'est ce qu'on avait prévu. Oui.
Voilà. Donc, on aura l'occasion d'en reparler et de donner le détail de ce week-end. Mais tu seras là aussi pour proposer un week-end autour du féminin guérisseur pour les femmes pendant 2 jours à Parisot. Donc, on aura le temps d'en reparler. Mais voilà, tu seras...
Ouais, je pense que ça serait intéressant, mais là, le temps est un peu court. Mais on lui parlait qu'est-ce que c'est que le féminin guérisseur.
On aura l'occasion d'en reparler. On prendra le temps d'en reparler. Écoute, Yaël, je te remercie. Et pour conclure, Yaël, peut-être que tu peux nous partager un de tes textes que tu peux nous lire pour conclure ce joli portrait de femme.
Alors, je vais vous lire un texte que vous pouvez trouver sur le Chant des Arbres qui s'appelle « Je suis une femme de la terre ». Je suis une femme de la terre. Oui, chaque chose que je fais m'appelle à elle. C'est une attirance. Aimante, où je sais que tout vient à ce retour, une évidence. Je mets mes graines dans son ventre et plante. Je sème des graines et les vois fleurir ou s'éteindre. Tout est cycle, recommencement, renouvellement, émerveillement. J'ai rien besoin, tout vient. La nature sait. Je suis une femme de la terre, je reviens toujours à elle. Je suis chanteuse de la terre. Je reste assise à la contempler, dans la froideur de l'hiver, dans la chaleur de l'été, dans les brumes enneigées, dans ses foins coupés. Je suis une femme de la terre, je cultive, je dors avec elle, je crie avec elle, ma maison est en terre. Elle est mes racines, mes fondements, mon ciment. Rien ne ment avec elle, la simplicité de mise. Je suis une femme de la terre c'est ma mère, c'est mon origine, c'est une rencontre, je l'honore. Je pose de l'argile sur mon ventre, sur mon visage, et me baigne dans ses rivières. Je découvre ses profondeurs, ses entrailles, sa chair. Je suis une enfant. Je suis une femme de la terre. Terre, mer, air, feu, eau. Tous ces éléments sont mes amants. Je m'en mêle à chaque goutte du vivant. Terre, épouse-moi. Faisons des enfants. Je suis une femme de la terre, pieds et terre posés, bras et branches au ciel. J'écoute. Oui, j'écoute et m'endors dans ton ventre. Je suis une femme de la terre.
Magnifique. Eh bien, merci beaucoup. Donc, Le Chant des Arbres, overblog.com. Merci beaucoup, Yaël.
So uninspired.
Et tout de suite, notre chronique Graines de vie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'allaitement. Faut-il préparer la poitrine à l'allaitement ? Eh bien, encore aujourd'hui, comme cela a été le cas déjà au XVIIIe siècle, on parle de préparation à l'allaitement. Alors, après avoir travaillé sur le sujet dans le cadre de ma formation de sophrologique de préparation à la naissance, je me suis longtemps penchée sur la question et... j'ai senti le besoin vraiment qu'il fallait en parler et replacer les choses. Dans la nature, aucune femelle mammifère ne prépare ses mamelles avant de commencer l'allaitement de ses petits. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est en effet un geste naturel que nos cultures ont oublié, tout simplement. Si les femmes pensent devoir le faire, aujourd'hui c'est tout simplement que ce geste est devenu plus culturel que naturel. Et chaque culture comprend ses propres codes, même en matière de sein et d'allaitement. Alors, on ne fera pas le détail de toutes les civilisations, tous les pays où effectivement la préparation à l'allaitement et la préparation à la poitrine diffèrent, ça serait beaucoup trop long, mais sachez que selon les cultures et selon les pays, on ne prépare pas la poitrine de la même façon à l'allaitement. Alors pour ce qui est des mamelons, parce que souvent la question qui est posée, c'est la question des mamelons qui sont trop plats, trop rétractés, des bouts de sein trop petits. Alors, il faut savoir que le problème ne vient absolument pas du mamelon, puisque quand l'enfant tète, il ne tète pas du tout le mamelon, mais vraiment l'aréole du sein. Donc, les mamelons trop petits ou rétractés, c'est une idée reçue. Et ce n'est absolument pas du tout un problème pour allaiter. Alors, bien sûr, les femmes qui ont envie de masser la poitrine et le mamelon pendant la grossesse, bienvenue à elles pour le faire, puisque ça permettra, en effet, déjà de prendre contact avec sa poitrine et d'imaginer l'enfant autour du sein et donc de préparer déjà à avoir le bébé et donc préparer le mamelon. Mais il n'y a pas du tout besoin d'aller tirer sur les mamelons, d'une préparation en se disant j'ai des petits bouts de sein, il faut absolument les faire grossir, les tirer, les étendre. Pas du tout, c'est une idée reçue. Autre chose, justement, toujours en matière de mamelons, on a aussi tendance à croire presque qu'il faudrait durcir les tissus, durcir la peau au niveau du mamelon afin d'éviter les crevasses. Encore une fois, c'est une idée reçue puisque souvent les crevasses, et ça tous les spécialistes aujourd'hui sont d'accord pour le dire, Il y a souvent, très souvent, crevasses à cause d'un mauvais positionnement en fait de l'enfant lors de la tétée, tout simplement. Donc soit l'enfant ne prend pas bien le sein, soit il est pas bien positionné et il tire trop dessus, ce qui crée donc des crevasses, des coupures, des gerçures au niveau du mamelon, mais pas du tout parce que le sein est trop mou ou qu'il est pas assez dur. Encore une fois, dans la nature, vous n'avez aucune femelle mammifère qui va s'endurcir le mamelon avant de faire allaiter ses petits. Donc, idée reçue, hein, bien sûr. Alors, encore une fois, hein, rien n'empêche, si on le souhaite, de masser les seins, pourquoi pas, de les hydrater aussi, si on le souhaite, mais ce n'est pas l'hydratation du mamelon qui préviendra tout simplement, en fait, des crevasses, mais vraiment le bon positionnement de l'enfant lors de la tétée, d'où l'importance d'être bien accompagné par une sage-femme, une personne bien formée de la Leche League qui pourra vraiment vous suivre, vous accompagner, vous expliquer et vous montrer les positionnements du bébé pour l'allaitement, parce qu'il en existe plusieurs. On reviendra là-dessus, on en parlera plus tard. Donc pas besoin de durcir les mamelons, et surtout, alors si on les hydrate, évitez bien sûr avec du savon ou de l'alcool, parce que très souvent ça arrive, des femmes qui se mettent de l'alcool ou du savon sur les mamelons, et là à part faire une irritation de la peau, vous brûlez et vous causez démangeaisons et vraiment brûlures. C'est pas du tout le truc à faire. Donc, on peut hydrater si on le souhaite, mais voilà, avec une pommade, avec une crème douce et neutre de préférence, juste avec un petit peu d'huile et pas de produits abrasifs ni agressifs pour les seins. Sachez également, pour l'allaitement et pour la préparation à l'allaitement, que le sein se prépare tout seul. Le corps est extrêmement bien fait. Donc au fur et à mesure de la grossesse, le sein grossit tout simplement. Le mamelon peut lui aussi, et très souvent d'ailleurs, va grossir également. Et il va se préparer petit à petit avec du colostrum qui sortira déjà au 8e mois, des fois même 7e, mais souvent 8e mois de grossesse. Donc c'est ce lait maternel, ce qui est pas vraiment encore du lait du coup, mais qui prépare à l'allaitement et qui est cicatrisant pour le mamelon. Donc quand ça coule, même éviter les coussinets un maximum et prenez cette petite goutte qui sort du mamelon, étalez-la, badigeonnez-la sur vos mamelons. C'est très cicatrisant et très nourrissant, donc ça ne pourra que vous faire du bien. Tout de suite, on écoute Corinne pour sa chronique Bien-être et fourchette, qui va nous parler du lactose. Et elle aussi, il y aura un sujet donc thématique sur plusieurs émissions. Et si on en parlait ? Bonjour Corinne.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Avant de vous parler du lactose, j'aimerais revenir sur le gluten et vous faire partager un article qui est paru sur le site lanutrition.fr. Je vous ai mis sur le blog www. La cuisine du jardin de Rose le lien pour l'article ainsi pour la biographie du docteur Seignalet pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore.
C'est personnage à connaître d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Cet article est la reconnaissance et la confirmation de ses travaux sur son régime hypotoxique, sans gluten et sans lactose. Alors je dirais plutôt pour moi un mode d'alimentation qu'un régime, car c'est une façon différente de cuisiner, de consommer, que l'on doit adopter à mon avis pour toujours et non pas de temps en temps comme un simple régime.
Effectivement, parce que le propre d'un régime, c'est sur une courte durée, c'est sur une période, alors que là c'est vraiment instaurer un autre mode d'alimentation.
Voilà, une autre façon de s'alimenter, mais pour toujours, surtout pour les intolérants au gluten, les allergiques ou pire, les gens qui sont atteints de la maladie cœliaque. Mais elle parle aussi dans son régime pas que du sans gluten,
mais pas que du sans gluten.
Du sans lactose, des cuissons douces. Enfin, je vous invite à lire tout ce qu'elle a fait, ses livres, c'est vraiment vraiment très intéressant et elle est enfin reconnue.
Elle est enfin reconnue.
Voilà.
Mais
je vous laisse découvrir tout ça sur l'article. Voilà, la petite parenthèse fermée, revenons au lactose. Qu'est-ce que le lactose qui rend certaines personnes malades? Alors, je dis bien certaines, car à l'inverse du gluten, vous le lirez dans l'article, le lactose n'a pas les mêmes effets négatifs sur tout le monde. Je m'explique. Le lactose, c'est le sucre du lait. Pour le digérer, il faut une enzyme digestive appelée lactase. Les bébés des hommes, et des autres mammifères aussi, digèrent très bien le lactose du lait maternel grâce à leur propre lactase. Tout se complique vers l'âge de 3 ans, au moment « normalement » entre guillemets du sevrage, car il se produit une chute de cette enzyme, voire la disparition complète pour certaines personnes. Et donc, c'est là qu'intervient la mauvaise digestion du lait. C'est là qu'intervient la mauvaise digestion du lait pour certaines personnes. C'est là que nous ne sommes pas égaux. Environ 75% de la population mondiale n'est plus capable de digérer le lactose, mais 25% restants le peuvent encore. Pourquoi ? Car ils sont descendants de peuples ayant une longue tradition d'élevage, souvent originaires du centre et du nord de l'Europe. Je parle ici de plusieurs siècles. Plus on descend vers le sud et plus le pourcentage d'intolérants au lactose augmente.
Il y a vraiment question, voilà, des populations, de la culture, d'où l'on vient, des origines.
Tout à fait, ça s'est modifié.
Les ethnies,
on a
même,
modifié notre, on a modifié notre corps.
Ouais, tout à fait.
Au fil des siècles, ça,
avec
ça s'est
les
fait
mouvements
lentement.
De population,
voilà,
et
tout
puis,
à fait.
Les changements au niveau de l'agriculture, de l'élevage, des modes de consommation.
Donc, lorsque l'on ne fabrique plus de lactase ou presque plus, et que l'on boit du lait ou que l'on mange des aliments contenant du lactose, celui-ci est transformé par les bactéries intestinales en toxines. D'où tous les maux que l'on connaît. Ces toxines agissent sur le système nerveux et digestif, entrant dans divers maux et inconforts, voire même maladies graves. Comme le gluten, le lactose est présent dans énormément d'aliments fabriqués.
Oui.
C'est pourquoi une intolérance au lactose reste parfois insoupçonnée pendant des mois, voire des années, même si on ne boit plus du tout une goutte de lait. Ça, on en reparlera le mois prochain. Je vous ferai un petit résumé sur tous les produits
contenant du coup
voilà,
du lactose.
Voilà. Et qu'on soupçonne même pas.
Et qu'on soupçonne même pas.
Un autre souci pour beaucoup d'intolérants au lactose est le probable manque de calcium dû à l'arrêt des produits laitiers. Ça, on y reviendra
on
aussi.
En parlera également.
Mais ne vous inquiétez pas, ne plus consommer de lait ou de dérivés de lait animal ne vous rendra pas plus vulnérable face aux fractures ou à l'ostéoporose, bien au contraire. Le végétal regorge d'aliments plus riches en calcium que le lait. Il suffit juste de changer son alimentation.
Exactement. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apports en calcium, autre que le lait, et heureusement, j'ai envie de dire.
Tout à fait. Venez me rejoindre sur www.lacuisinedujardindeRose.unblog.fr pour y découvrir une cuisine saine et sans gluten et sans lactose. Je vous dis au revoir et à bientôt sur CFM.
Merci
Radio.
Beaucoup Corinne. La Minute Info de ce mois-ci. Alors, juste une date que j'aimerais vous rappeler. C'est le salon donc autour du féminin, les 19 et 20 mars, à Nîmes, donc organisé par Yaël Catrinet. Donc, je vous invite à aller voir tout le détail de la journée, avec les conférences, les ateliers qui sont proposés, les horaires et le lieu pour vous y rendre, sur le blog de Yaël, Le Champ des Arbres. Je vous remercie de nous avoir écoutés dans Terre d'Elle, et je vous dis au mois prochain.